Voilà. Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Che fai, credici?
Ma stato morto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
C'est parti pour un nouveau rendez-vous de Cinémascope après 4 semaines d'absence. Autour de cette table, il y a du monde, il y a René, il y a Didier, il y a Sophie. Je fais le tour dans les sens contraires des aiguilles de la montre, c'est ça? Je sais plus, un truc comme ça. Et Olivier, toujours présent, merci, bonjour à tous les 4.
Bonjour.
On a 6
bonjour.
Films sur la planche après cette longue semaine des rencontres des cinémas d'Europe. Et notamment, il y avait un des films qui était déjà aux rencontres et que vous avez certains et certains plus voir. On va s'arrêter tout de suite sur ce premier long métrage, c'est Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, qui nous emmène dans la fin des années 80, c'est ça, Sophie, avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui passent le concours d'entrée à la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman au théâtre des Amandiers de Nanterre. Nous y sommes.
Exactement, et on suit la ferveur de ces jeunes qui sont lancés à pleine vitesse dans la vie, dans le théâtre. Enfin, c'est l'idée, mais...
Mais
il y a un mais, moi je reste un petit peu mitigé, c'est-à-dire que cette fébrilité, cette ferveur de cette bande de jeunes qui ont 20 ans, effectivement lancés en pleine vitesse dans les années 80, ben moi je ne l'ai pas ressenti. Enfin, je suis passé à côté du film, alors je me suis demandé si j'étais seule dans ce cas-là, mais je pense que... On va en parler. Voilà. Didier aussi est passé à côté. Alors, y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, dans ce film, c'est le lien entre le théâtre et la vie, qui est assez bien mené, et même, voilà, y a une imbrication, et il y a des va-et-vient entre ce qui se passe dans la vie de chacun et les scènes de théâtre. Oui, ce côté un peu charnel où c'est les émotions qui sont nécessaires pour jouer dans la plus pure tradition de l'acteur studio. Donc, où on est à vif, où plus on est à vif, plus le jeu est censé être incandescent. Et pourtant, bah... Pff, 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 ouais, je sais pas où... Il y a une sorte de romantisme. Il y a une sorte de romantisme, peut-être pour moi un petit peu cliché, où forcément les gars sont ténébreux, où ça crie, où ça fume, où ça sniffe, où ça shoot, où ça se shoot. Enfin, ok. Il y a aussi un petit peu de violence dans les relations. Alors, moi, ça me pose problème, ça, Didier, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais Valeria Bruni Tedeschi filme cette ambiance justement des années 80 où il y a un milieu assez fermé et où les relations sont presque des relations de domination. Alors, on suit Stella, donc Stella c'est le double finalement de Valeria Bruni Tedeschi, Stella et toute la bande. Et la relation que Stella entretient avec Étienne, le personnage principal, c'est une relation toxique, c'est une relation de domination, c'est une relation... Alors Patrice Chéreau est filmé un petit peu comme
Louis Garrel.
Ouais, très bien. Vraiment très très bien. Alors pour le coup, on n'est pas dans la géographie. Patrice Chéreau est montré comme justement un personnage violent.
La géographie, l'art de la géographie.
Peut-être, ouais, pour certains, ouais. Mais bon, moi, il y a quelque chose qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'elle constate, elle filme toute cette violence. J'ai l'impression qu'elle la juge pas, qu'elle la décrit, ce qui est plutôt bien, mais quelque chose me gêne. je ne sais pas. Et peut-être d'autant plus à la lumière de ce qui s'est passé. Donc tu voulais en dire un mot.
Oui, alors moi sur le film, alors c'est vrai que j'ai pas bien compris parce que j'ai regardé les critiques, on en parlait tout à l'heure, les critiques mais sont unanimement dithyrambiques. Alors que moi je suis un peu comme toi, le film, alors c'est brillant en termes de mise en scène, c'est vrai et tout, mais alors ça m'a pas intéressé un seul instant. Elle a une vision des années 80 qui sont juste des années sexe débridé, sida, toxico, etc., etc. Bon, c'est vrai que ça existait dans les années 80, mais pas plus que dans les années 70, et peut-être sûrement pas plus que dans les années 90. Et moi, je trouve qu'elle regarde ça, alors, avec un regard, mais plus complaisant, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu complaisant, et cette troupe de jeunes acteurs, si vous avez vu, nous, on n'est pas comme tout le monde, on est beau, c'est l'acteur studio, on est formidable, on va faire des choses. Et malheureusement, je trouve que ça va bien. Moi, j'aime beaucoup Valeria Bruni-Tedeschi comme comédienne. Je trouve que c'est une comédienne hors pair, elle a une présence, elle a une voix très particulière, un peu voilée et rauque à la fois. Voilà, je l'aime beaucoup dans ce rôle-là. Par contre, c'est son cinquième film de réalisatrice. Très honnêtement, ça m'a jamais intéressé. Les états d'âme de petites filles riches, je passe complètement à côté. Donc, je suis passé à côté du film, je l'ai vu, ça m'a ennuyé et j'ai pas du tout accroché au personnage. Alors, je voudrais juste dire un petit mot sur la polémique qui s'est installée sur ce film. Au sujet de Sofiane Benacer, un des rôles principaux du film, qui est accusé de viol et de violence. Ce qui est une chose, donc il est accusé, des plaintes ont été déposées, la justice va passer, très bien, c'est comme ça. Mais que certaines salles aient choisi de déprogrammer le film sur ce prétexte, je trouve que là, c'est un peu dommage parce qu'un film n'est pas fait par une personne, en particulier un acteur qui est un rôle parmi de nombreux autres rôles. C'est une équipe et je pense qu'on n'a pas à sanctionner les techniciens, les autres comédiens, les producteurs, etc., etc., parce qu'il y a une plus qui n'a pas été jugé quoi,
c'est-à-dire oui, c'est surtout qui n'a pas été jugé
une plainte, enfin trois plaintes je crois qui ont été déposées. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le film et sur l'époque actuelle.
Film que vous pouvez aller voir tout de même pour vous faire votre avis, parce que quand même la presse...
Et il est programmé à Aubenas.
Et il est programmé à Aubenas, voilà, il
et
est programmé...
c'est même un coup de cœur du navire.
Et c'est même un coup de cœur du navire. Donc c'est aujourd'hui à 15h,
propre...
ou demain à 17h30, sinon vous allez aussi à Rosières la semaine prochaine, ou à Ruon, ciné 7 à 18h, plus tout au long de ce week-end. Voilà pour les amandiers, je vais me tourner vers René, qui est allé voir Armageddon Time. On va tout de suite en parler de ce film, qui nous emmène à New York.
Tout à fait. Alors, un mot sur le titre Armageddon. Dans la Bible, c'est le combat final entre le bien et le mal. Et par extension de sens, c'est l'idée d'un combat féroce. Ici, je pense qu'il faut prendre ça au sens ironique du mot. Alors, donc, on est bien à New York, dans les années 80. On a d'un côté Paul, qui vit dans une famille aisée, qu'il a du mal à supporter, d'ailleurs, à part son grand-père, qui le comprend et l'encourage. Il va donc à l'école du quartier, dans le Queens. Paul va y rencontrer Johnny, un garçon noir qui vit dans des conditions très difficiles avec sa grand-mère malade. Les deux garçons vont devenir amis et au milieu du film, les parents de Paul, inquiétés par les problèmes de discipline de son école de quartier, vont l'inscrire dans une école privée. Donc c'est un film sur un milieu familial, c'est un film sur le poids du milieu familial, sur une éducation étouffante pour les enfants, tant l'idée de réussite fonctionne là comme, on dirait, un impératif catégorique. Alors, c'est un film qui est basé sur une série de contrastes. Il y a tout d'abord le contraste entre Paul, qui vient d'une famille de la classe moyenne blanche, avec les parents, les grands-parents, qui veillent scrupuleusement sur l'éducation de leurs enfants. Et de l'autre côté, Johnny, qui vit lui seul, dans un taudis, avec sa grand-mère, vieille, malade et noire. Voilà. Qui est bien incapable de s'occuper de lui et de sa scolarité. C'est un garçon qui se retrouve livré à lui-même. Le deuxième contraste se joue entre deux écoles, puisqu'au milieu du film, Paul va changer d'école et passer d'une école de quartier qui connaît de sérieux problèmes de discipline à une école privée, sponsorisée, mais oui, par le père de Donald Trump lui-même. École qui, où au contraire, l'ordre règne, la réussite et l'obsession de tous les instants. C'est un peu une école caserne. Donc, troisième au contraste entre la maladresse des parents qui ne, de Paul, qui ne savent pas comment s'adresser à leur enfant, à leurs enfants, ils en ont deux, qui ne savent pas par quel bout les prendre, et le grand-père qui, lui, parce qu'il a le temps, sans doute, mais parce qu'aussi il a une culture importante, il est né en Europe, il a vécu en Europe, puis il a émigré aux États-Unis, et il trouve à la fois le ton, les arguments pour communiquer avec ce petit-fils en révolte. Voilà, c'est un film qui montre que, aussi, en même temps que ces contrastes, qu'au cœur du racisme, il y a avant tout une question sociale et une question de capital culturel qui va, ou de l'absence totale de capital culturel dans le cas de Johnny. D'un côté, donc, comme je le disais, il y a le grand-père qui forme son petit-fils, qui s'occupe de lui, qui veille à sa culture, en quelque sorte, de manière scrupuleuse. De l'autre côté, il y a ce petit garçon noir dont personne ne s'occupe. Voilà, le constat est sans appel. Si vous êtes noir, issu d'un milieu défavorisé, vous n'avez pas la moindre chance de vous en tirer. C'est ce que dit le film. Et donc, cette amitié, il y a aussi cette amitié improbable entre ces deux garçons de milieux si différents. Un film qui s'efforce, avec succès, je dirais, d'ailleurs, de reconstituer à la fois l'ambiance des années 80, avec le soin caractéristique des films américains, les intérieurs, les voitures, les vêtements, tout est reproduit à la perfection. Et puis surtout, un jeu sur l'éclairage, sur la lumière, qui est très important. Tout le film baigne dans une sorte de pénombre. Voilà. Alors, bien sûr, il faut dire qu'il y a une dimension autobiographique claire. James Gray nous parle de son enfance. Cette pénombre souligne bien le fait que pour lui, les souvenirs qu'il a de cette enfance en font une enfance qu'il a vécue sans doute comme étouffante. Et donc, ceci est adéquatement souligné par l'éclairage, je dirais. Alors, il faut souligner aussi dans ce film le numéro d'acteur exceptionnel d'Anthony Hopkins. Mais de toute façon, Anthony Hopkins est toujours bon. Il campe là un grand-père issu de la diaspora juive. Il est plus vrai que nature et il pèse très lourd sur la réussite du film. Alors, pour terminer, j'aimerais dire un mot sur le fait que dans ce film, il n'y a pas de violence physique, ou très peu. Le film ne met pas en scène des Noirs qui se font tabasser par la police, ce qu'on voit assez souvent dans des films américains. Il montre que c'est beaucoup plus... il manque, à mon avis, de façon beaucoup plus efficace, un racisme institutionnalisé dans les mœurs. Le père de Paul le regrette, lui qui est quelqu'un d'éclairé, disons, mais il en prend son parti et il dit en substance vers la fin du film « Tu sais ce qui se passe dans la société, c'est injuste vis-à-vis des Noirs, mais on ne peut rien y faire. Il faut laisser aller, il faut laisser faire et travailler à sa propre réussite. » Et je crois que c'est le terrible constat que fait ce film. Si même les Américains qui sont conscients de l'injustice faite aux Noirs, qui sont éclairés, disons, s'ils sont cessés d'être mus par un idéal d'émancipation, d'égalité des chances, on peut s'interroger sur les chances que la société américaine ait un jour la capacité à régler ce problème. Alors pour finir, évidemment, les gens qui aiment le cinéma feront un rapprochement avec les 400 coups de Truffaut. C'est un rapprochement, un parallèle qui ne va pas très loin, parce que il me semble que dans le film de Truffaut, on sent que, ce qui a été fait à la fin des années 50, on sent que quelque part, mai 68 se profile et que la révolte des jeunes va s'affirmer, alors que là, au contraire, la révolte des ados est étouffée dans l'œuf. Dès que ce garçon rentre dans cette école privée, on sent que c'est terminé. Reagan arrive au pouvoir, on nous le montre, c'est l'ère du fric facile qui arrive et la révolte, on la met sur le, comme disaient les Anglais, on the back burner, sur le réchaud de derrière.
Voilà. Sous le tapis, on dirait en France.
Sous le tapis, on dirait en France. C'est un beau film, hein, c'est un film très bien fait, comme tous les films de James Gray d'ailleurs. C'est un metteur en scène important.
Armageddon Time à découvrir aujourd'hui au navire à 18h, également demain soir à 21h, donc dans sa version originale. Vous avez. C'est préférable d'ailleurs à la version haut, ça va de soi. Au Teil, à Priva, à Barjac, vous le retrouverez. Et puis à Rosières, on a décidé aussi de faire des versions en française. Voilà, c'est à découvrir si vous le souhaitez demain à 20h30. Voilà pour ce second film. Merci René. On va s'écouter une petite bande-annonce qui annonce le troisième, Saint-Omer. Il arrive sur les écrans du navire.
Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi?
Non, je peux pas.
Tu pourrais faire un effort quand même.
Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger.
La protéger de quoi?
De la malveillance.
Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant.
Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur?
C'est une fabulatrice.
Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle.
Comme qui?
Comme ma mère. Velvet
shoes, say... C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable.
C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie.
Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains.
Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous.
Saint-Omer, c'est à découvrir. Excusez-nous, on fait des bêtises pendant les bandes-annonces. Du coup, on arrive à ne plus s'en sortir d'un fou rire. Avec un film donc d'Alice Diop, qu'on connaissait plutôt pour des courts et des longs-métrages documentaires. Et là, elle se lance dans son premier long-métrage de fiction. Alors, Didier, tu es allé voir ce Saint-Omer d'Alice Diop.
Oui, ce film est adapté est l'adaptation d'un fait divers qui vous parlera peut-être, qu'on a appelé l'affaire Fabienne Cacou, donc qui est une jeune femme qui avait abandonné son bébé d'une quinzaine de mois sur une plage à Berck, et donc l'enfant a été emporté par la marée, et c'était tout à fait volontaire, quoi. Donc Alice Diop la réalisatrice avait été complètement interpellée par cette histoire à cette époque. Elle a suivi le procès donc qui a eu lieu à Saint-Omer, d'où le titre du film, et elle a choisi de l'adapter au cinéma. Et elle avait été frappée, ce qu'elle retranscrit à l'écran, par le fait que tout le monde s'attendait à voir une jeune femme sortie des couches les plus basses de la société, puisque c'est souvent là que les médias nous emmènent et nous présentent les personnes accusées d'infanticide et de choses comme ça. Et là, à la surprise générale, pas du tout, le tribunal a été face à une jeune femme intellectualisée, qui s'exprime dans un français absolument parfait, qui reconnaît le meurtre de sa fille, mais est incapable de l'expliquer et plaide non coupable. Donc ouais, c'était quelque chose de très particulier, quoi. Et donc le film, en fait, raconte à 90%, le film, c'est le procès. Et c'est là que moi, j'ai un peu décroché très, très vite. C'est-à-dire que ça devient... Et pourtant, j'adore les films de procès. Je trouve ça très, très intéressant. Et là, j'ai trouvé ça très long, très statique. Hein. Le film est un amas de champs contre champs, dans des lumières vraiment assez pastel. Enfin, pas très... Voilà, enfin... Et moi, j'ai décroché du film. Voilà, très, très vite. Ça ne m'a pas vraiment intéressé. Alors, vous allez dire que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Après, ouais,
non, non, on a des bons points. Après, on a des bons points.
Voilà. Après les Amandiers. Mais j'arrêterai là parce que, pour moi, ça ressemble plus à un téléfilm, et même un téléfilm assez pauvre, parce qu'on fait des choses assez formidables en télévision maintenant. Et en plus, elle a choisi de se mettre en scène elle-même à travers une comédienne, elle-même assistant au procès. Donc ici, ce n'est pas une réalisatrice, une romancière, mais c'est vraiment elle avec ses interrogations. Voilà, donc moi j'ai décroché très très vite. Alors, et je comprends pas. Alors encore une foi, comme tout à l'heure, la critique est assez dithyrambique. Hein, et le film obtient le prix Jean Vigo cette année, qui a un prix quand même prestigieux. Va représenter la France aux Oscars, à deux prix prestigieux à Venise. Et là, j'avoue que cinéma français, quand même, cette année, on a eu des films comme Asbestas, La nuit du 12 et des choses comme ça qui me semblaient beaucoup plus intéressants et censés représenter un pays comme la France dans des instances comme les Oscars d'une façon un peu plus intéressante que Saint-Omer. Voilà. Donc,
est-ce qu'elle n'a pas, justement, elle n'est pas parvenue à passer de la frontière du documentaire à la fiction?
J'ai l'impression.
Elle a un peu du mal à se débarrasser de ses casseroles documentaires.
Le film c'est une véritable fiction avec des acteurs qui d'ailleurs sont pas mauvais, qui sont plutôt bons, mais c'est vraiment, oui, c'est je pense qu'elle a recréé un espèce de documentaire, une sorte de documentaire, et ça fonctionne. Autant on va parler de Poulet frites tout à l'heure, où là on a un documentaire qui plutôt ressemble à une fiction, et ben là c'est plutôt une fiction qui ressemble à un documentaire, mais je trouve que moi ça fonctionne pas, quoi.
Allez, Couleurs de l'incendie, bande-annonce, et on en parle juste après de ce film de Clovis Cornillac.
Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleurs de l'incendie.
Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur.
C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui.
Non, Gustave, c'est mon père.
Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque.
J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas?
J'ai besoin de 300 000 francs.
Vous aider ne va pas être possible, mon oncle.
Moi, je peux vous aider.
Mon journal vous soutient depuis 3 ans.
Dans 3 mois, ils vous mangeront la main.
Faites-moi confiance. Vous êtes ruiné.
C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave.
J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul.
Messieurs, extraordinaire puissance de ce turboréacteur des usines Joubert.
Bonjour, Gustave.
Bonjour, mon oncle.
Je cherche quelqu'un pour un travail.
Sur qui vous voulez enquêter?
Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert.
Nous sommes victimes d'un complot.
Un complot?
Mais de qui? Soyez prudente.
La musique y est, en tout cas. On est dedans. Hein. Tout y est, j'ai l'impression. Ouais. C'est Clovis Cornillac qui réalise cette adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, qui serait la suite de la saga initiée par Au revoir, là-haut.
Oui, si on veut. C'est-à-dire, au commencement, était Pierre Lemaitre, hein, avec sa trilogie Au revoir, là-haut, Couleurs de l'incendie, Miroir de nos peines. Trois merveilleux titres pour une trilogie.
Et trois excellents livres.
Excellent, oui, excellent livre, oui, alors je vais en dire deux mots, qui se déroule donc dans le Paris de l'entre-deux-guerres, période ô combien trouble et passionnante en même temps, hein, ce sont les années folles, et puis c'est la montée des extrêmes droites, 34, tout ça, enfin, c'est une période absolument passionnante pour toute l'Europe, j'allais dire malheureusement passionnante. Donc, Pierre Lemaitre s'y est collé, avec donc Au revoir là-haut, qui est un roman extraordinaire, c'est-à-dire on est dans l'art du roman plus, on est au niveau de Philip Roth et autres romanciers américains là, qui sont tellement professionnels là, dans l'art du roman, donc on est là-dedans. Et puis, on est avec Couleurs de l'incendie dans un livre, comme le dit Didier, également excellent, mais peut-être légèrement un ton en dessous, hein, en raison du fait que Pierre Lemaitre, il a un peu inauguré des trucs dans le premier, et puis il s'en resserre. J'ai lu d'ailleurs un article sur Internet de La Presse, qui consiste en une interview de Pierre Lemaitre où il avoue qu'il aime parfois se laisser aller à la facilité. Alors, c'est quand même étonnant, mais et dans le roman, il y a un truc, par exemple, qui revient, c'est l'art de mêler le style direct et le style indirect dans la bouche des personnages, qu'on retrouve ça chez Céline, chez Queneau, chez Barbus, etc. Et là, bon, c'est utilisé. Alors, une fois, c'est bien, super, deux fois, et puis après, au bout d'un moment, ça devient un peu antique.
Oui, bon, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est que chaque livre a une thématique. Enfin, pour moi, le premier, c'est l'histoire d'une escroquerie, d'une grande escroquerie. Le second, c'est l'histoire d'une vengeance. Et je crois que dans les livres, j'ai pas encore vu le film. Et ce qui est très intéressant, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la description, justement, de ce monde, de cette époque, des années. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc, et alors, ce que tu dis permet de souligner, de rappeler qu'au départ, Pierre Lemaitre est quand même un auteur de polar, et que là, on a à chaque fois une intrigue très très serrée, hein, très sur le mode thriller pratiquement, hein, que ça soit l'arnaque d'au revoir là-haut, ou effectivement, comme tu dis, hein, la vengeance de Couleur de l'incendie. Alors, le passage au cinéma, et pareil, j'allais dire, Couleur de l'incendie est une très très bonne adaptation, extrêmement fidèle. Elle a d'ailleurs été faite avec Pierre Lemaitre. Il avait déjà mis son nez dans la réalisation de Revoir là-haut avec Dupontel. Hein, et effectivement, Dupontel avait même reconnu que Pierre Lemaitre... C'était une reconnaissance réciproque. Pierre Lemaitre avait reconnu que Dupontel avait trouvé des trucs qu'il n'avait pas lui-même trouvé. Bon. Et là, Pierre Lemaitre et Clovis Cornillac ont travaillé ensemble, largement. Le maître est largement l'auteur du scénario. Et donc, au plan de l'adaptation, il y a une émission sur Fréquence 7, là, intitulée Un livre, un film. Eh bien, il a été question de Revoir là-haut. Il pourrait être question également de Couleur de l'incendie, parce qu'on a un cas d'école de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a le passage du langage du roman au langage du cinéma, et de manière absolument parfaite. Il y a absolument rien à dire là-dessus, avec le petit côté ton en dessous, c'est-à-dire quelques clichés dans le film, la façon d'un monsieur Dupré d'allumer sa cigarette au moment opportun, ça fait presque une virgule visuelle, enfin, etc. Enfin, il y a des petits clichés comme ça. Bon, pas grave, ça reste un film très agréable à regarder. Moi, j'ai pas vu passer les 2h15 passées. Quoi dire ? Ben que Pierre Lemaitre donc s'est constitué scénariste, hein, et que d'ailleurs il y a un autre texte de lui, que les Cadres noirs, qui est adapté dans une série télé, les dérapages de Ziad Doueri avec Eric Cantona dans le rôle principal, quand même, ça se connaît. Donc voilà, il y a une histoire, grande histoire d'amour entre Pierre Lemaitre et le cinéma, et probablement aussi entre Clovis Cornillac et la littérature. Et donc ça le fait d'autant plus qu'il y a une vraie, paraît-il, hein, je l'ai appris en préparant l'émission, pas non plus, il y a une grande complicité entre Clovis Cornillac et Thierry Pouget, son photographe, qui est son photographe sur plusieurs, c'est le cinquième ou quatrième long métrage de Clovis Cornillac, après Belle et Sébastien, C'est magnifique, Un peu beaucoup aveuglément, et donc il a toujours le même photographe, et c'est royal, hein, ça, la photographie, c'est une pure merveille. Autant Pouget avait fait la photographie des autres films pour les autres films, autant là, il a fait de la photographie pour ce film-là, et retranscrire effectivement l'atmosphère de l'époque, l'atmosphère aussi de la vengeance, etc. C'est, de ce point de vue-là, c'est vraiment parfait. Les acteurs aussi sont assez extraordinaires. Bon, on est un petit peu habitué dans le cinéma français d'avoir des bons acteurs quand même, hein, je veux dire. Mais là, Léa Drucker dans le rôle de Madeleine Péricourt, Benoît Poulvord dans un rôle de Gustave Joubert, l'homme de confiance du père de Madeleine, le banquier Péricourt. Donc Benoît Poulvord, juste époustouflant. Ah non, j'avais dit qu'il ne faudrait pas dire époustouflant.
Ah oui, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser, tu le sais, Olivier.
Oui, ni à couper le souffle, d'ailleurs.
D'accord.
C'est un peu ébouriffant, mais dans mon cas, c'est difficile. Bon, il y a Alice Izaz qui joue Léonce Picard, et puis Clovis Cornillac qui joue Monsieur Dupré, le chauffeur, très bon, Olivier Gourmet, Jérémy Lopez, la Comédie Française, Fanny Ardant, oui. Olivier Rabourdin, que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, c'est un casting un peu de luxe.
Et puis alors, pour finir, je dirais, enfin finir, oui, les décors et les accessoires. Là on sent le budget quand même, hein. Mais ça se transpire pas trop la thune quand même, hein. C'est riche, mais pas quand même, voilà. Alors décor accessoire, oui, on est dans les grandes bâtisses de l'entre-deux-guerres, art déco, enfin un petit peu comme ça. Enfin c'est vraiment une merveille. Les accessoires sont au millimètre, et peut-être parce que Pierre Lemaitre, depuis des années, est accompagné par une historienne qui s'appelle Camille Clairet, je tenais à dire son nom, agrégée, docteur, spécialiste d'histoire contemporaine et de l'entre-deux-guerres, et qui le coach littéralement, c'est-à-dire elle passe sa vie à la Bibliothèque nationale pour s'assurer que ce que Pierre Lemaitre met dans ses bouquins et par conséquent Clovis Cornillac dans ses films, c'est vrai, c'est juste, et ça se sent.
En tout cas,
et ça se sent.
Un sens historique.
Donc on a un film qui, de ce point de vue-là, est complètement satisfaisant et qui, personnellement, m'a donné envie de connaître le nom du troisième réalisateur qui se collera au troisième volume de la trilogie, voilà.
Couleur de l'incendie aujourd'hui au navire à 20h45, c'est également sur les écrans du cinéma Le Vivar et à Privas, au Regain, au Teil, et c'est même du côté de Cruas aujourd'hui à 17h45, vous voyez qu'on va chercher des informations jusqu'à très loin dans la vallée du Rhône, on est fou. Allez, on poursuit cette émission avec Poulet frites, tendez l'oreille, la bande-annonce, je l'ai trouvé un peu mal mixé, mais c'est pas grave, vous allez voir, tendez l'oreille, c'est Poulet frites, et vous allez peut-être comprendre avec un petit générique au milieu.
Police, ouvrez!
Le corps a été découvert. Comment, en fait?
C'est un voisin qui a appelé.
Un coup de couteau au niveau de la gorge. Un cadavre retrouvé sous l'évier. Un autre couteau de cuisine type plutôt couteau à pain, aussi ensanglanté.
Non, c'est une plaie très profonde qui va jusqu'au plan vertébral.
Effectivement, c'est l'égorgement, bonjour les dégâts. Vous l'avez retourné exactement comme ça. Et sans détacher la tête en plus.
La police, madame, police.
Dans le bol alimentaire de la victime, il y a des frites. Donc c'est très important, des frites dont certaines sont pratiquement intactes. Donc chez lui, on trouve des frites du même calibre. C'est des grosses frites surgelées.
S'ils sont deux à manger ensemble, je devrais avoir une autre assiette ici.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Avec qui manges-tu vendredi soir?
Tout seul.
Tu n'as amené les frites à personne?
Il y a quand même dit qu'il était bouché de formation. Je ne sais pas si ça peut jouer un rôle. Dans l'étude de la coupure, je ne sais pas, je n'y connais rien.
Voilà, Poulet frites. Il est sorti le 28 septembre dernier, mais il est à découvrir du côté de Le Teil pour les amateurs. Je pense qu'ils l'auront reconnu à travers le générique de ce fameux striptease émission documentaire belge qui avait été diffusée, entre autres pour nous sur France 3. Sinon, c'était sur RTBF. Ça va de soi. Voilà, donc tu es allé voir ça pour nous.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Cette fois. Oui, c'est une émission mythique et les réalisateurs, enfin, deux des réalisateurs, Jean Libon et Yves Inan, avaient déjà décidé d'en faire un long métrage documentaire il y a quelques années. Ça s'appelait Ni juge ni soumise, si vous l'aviez peut-être
excellent.
Vu.
Avec cette
était
juge.
Absolument excellent, avec une juge incroyable, complètement. Enfin, on ne peut même pas imaginer que ça puisse exister. Et il n'y a qu'en Belgique que ça peut exister, je pense.
Oui, bien sûr. Ou dans le nord de la France.
Ailleurs.
D'une humanité,
mais en plus d'un humour, d'une. Voilà, donc, et d'ailleurs, c'était le César du meilleur documentaire à l'époque, en 2019, je crois. Donc, le principe est toujours le même, c'est filmer, sans aucune intervention, ni au montage, ni au filmage, des réalisateurs. Donc, on filme, et tout le monde finit par oublier la caméra. Et là, quand on voit la bande-annonce, on se demande, quoi, c'est une fiction, qu'est-ce que c'est tout. Non, c'est un documentaire, c'est un vrai documentaire sur un meurtre. Donc une femme est trouvée morte chez elle. Alors là, par contre, on est dans le lumpen prolétariat, chez les toxicos, on est vraiment très très bas dans la société. Donc cette femme est trouvée morte, les flics arrivent, un inspecteur prend l'affaire en main avec son petit staff, et il y a un coupable immédiatement tout trouvé, quoi. C'est le compagnon de cette femme qui habite à l'étage au-dessus, qui lui a déjà tapé dessus plusieurs fois. C'est connu des services de police et il était tellement chargé quand il est rentré la veille qu'il se souvient absolument pas de ce qu'il a fait. Mais il dit que quand même ça l'étonnerait qu'il ait pu faire un truc comme ça, quoi. Mais il est pas sûr. Et donc, on va l'emmener en prison, c'est le coupable idéal et tout. Sauf que ce jeune inspecteur, enfin, jeune, pas si jeune que ça, cet inspecteur... Alors, imaginez un flic qui serait un espèce de Columbo joué par Benoît Poelvoorde.
Ouais.
Et ben, c'est lui. C'est voilà. Alors, il va quand même aller creuser. Et donc, il se trouve que l'autopsie de la victime révèle qu'elle a des frites dans l'estomac. Et donc, avec qui, d'où elles viennent ces frites? Est-ce qu'elle a mangé des frites avec quelqu'un, etc.? Donc, c'est toute l'enquête qui va se nouer là. Et alors, ce qui est absolument génial et extraordinaire, c'est que cet inspecteur, il est persuadé intimement, sans aucune preuve, de l'innocence du coupable idéal. Donc, il va le voir en prison. Il boit des coups avec lui. Il lui amène des clopes. Il discute. Il sort même un peu de prison, de sa geôle, pour qu'il puisse respirer un peu. C'est absolument incroyable. Et donc, c'est à la fois très drôle, mais il y a quand même presque, en arrière-fond, comme une certaine mélancolie. C'est-à-dire on se dit, mais ça devrait être comme ça, quoi. On devrait tous habiter en Belgique. Si on a affaire à la police, avoir affaire à des gens comme ça et être jugé par la juge du film précédent, voilà, ça devrait être comme ça. Donc, il faut absolument aller voir ce film.
Pas beaucoup de possibilités, hein. C'est le Tay, là, c'est 18h aujourd'hui, ou c'est dimanche à 20h30.
Bah, ça fait deux possibilités, oui, fait le Tay c'est pas loin, et la salle est superbe.
Voilà. Donc allez-y pour redécouvrir ce poulet frit. Allez, très rapidement, parce qu'on a très très peu de temps, Didier, tu voulais aussi nous parler de Aria Ferma. Alors là, change hein, carrément, on est parti en Sardaigne,
en Sicile. On est en Sardaigne, dans une prison incroyablement vétuste qui est en train d'être évacuée. Mais il y a un problème administratif, il y a une dizaine de prisonniers qui ne peuvent pas être évacués immédiatement, donc il va falloir qu'ils restent là. Donc il va falloir aussi qu'il y ait des gardiens qui restent là. Donc il y a une espèce de petite communauté qui se crée, parce qu'en plus il n'y a plus rien, il n'y a plus de service, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de cuisine. Donc on fait livrer des repas par un truc absolument immonde.
C'est un documentaire?
Ah non, c'est une fiction,
c'est
ça.
Une fiction,
ça,
cette fois-ci,
ça,
oui.
Ça, c'est une fiction. Cette fois-ci, c'est une fiction. Et donc les prisonniers se plaignent, disant on ne mange pas ça, c'est épouvantable. Et donc c'est un prisonnier qui est là depuis, qui purge une peine très très longue, qui lui dit mais moi je sais faire la cuisine. Alors on le sort de la cellule et il fait la cuisine. Et petit à petit, il y a une espèce de communauté qui se crée comme ça entre gardiens et prisonniers, et toute une humanité qui apparaît, parce que les gardiens ne sont pas habitués à ça. Le chef des gardiens, ce n'est pas un chef d'habitude, c'est juste un gardien. Là, on lui a donné la responsabilité, donc il ne sait pas trop comment gérer ça. Il y a une séquence, et vraiment rien que pour cette séquence, ça vaut la peine d'aller voir le film, où il y a une panne d'électricité qui dégénère en un dîner commun, où tous les prisonniers sortent leur petite table de leur cellule et les gardiens viennent manger avec eux. Et là, pendant une heure et demie, il se passe quelque chose. Enfin, pas dans le film, hein, mais dans le scénario, il se passe quelque chose de il n'y a presque plus de différence. En fait, ils sont tous prisonniers ici.
On va peut-être avoir ça avec les délestages que nous promettent les énergéticiens.
C'est pas impossible. Et juste pour terminer, le surveillant, donc qui devient surveillant en chef, est joué par Tony Servidio. Donc on a vu dans La Grande Bellezza, etc., qui est un acteur vraiment formidable. Et le prisonnier cuisinier, c'est Silvio Orlando, qu'on a vu aussi dans beaucoup de films. Et pour ceux qui ont vu la série The New Pop, qui est une série extraordinaire, il joue l'un des cardinaux. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pareil, si vous pouvez le voir. Film rare, film dans...
10 fois nominé à ce qu'on va appeler les Césars italiens, c'est-à-dire les David Di Donatello, et ils ont obtenu 2 prix.
Ouais. Et c'est un film carcéral, il y en a plein, des films sur les prisons. Celui-là est vraiment très à part.
Allez, samedi et dimanche, cette fois-ci, on n'est plus au Tay, on est au Vivare. À Priva, samedi 18h30, dimanche 20h, on ne l'a vu que dans ces endroits-là. Ce serait bien des fois qu'on prenne un peu des risques sur les scènes du Sud-Ardèche, sur les scènes, les écrans. Très rapidement, Léon, on ne te laisse pas beaucoup de temps, hein, Sophie. Quelques actualités, et après on referme vite cette émission, parce qu'on a bien dépassé déjà.
Ouais, pour terminer, donc en plus des films dont on a parlé, on peut aller voir samedi 3 décembre au Ciné 7 de Ruyons, donc demain à 16h, Les Petites Victoires, qui sera en présence de la réalisatrice Mélanie Auffray. Donc, si vous voulez, une comédie, un débat, une bonne action, puisque 50 centimes sont reversés au Téléthon. Donc, allez voir demain, 16h, Les Petites Victoires à Ruyons avec la réalisatrice. Ce week-end, vous avez aussi la possibilité de vous refaire la trilogie des Seigneurs, du Seigneur des Anneaux sur grand écran, donc au foyer de Rosières, samedi et dimanche. Autre chose aussi, à Aubenas, au navire, proposé par les rencontres interreligions d'Aubenas, deux films, Azur et Asmar, le classique de Michel Oslo à 15h, magnifique, suivi d'un goûter à 17h. Ensuite, à 17h45, Green Book.
Très bien, Green Book. Très bien,
bien, excellent bien. Film de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, notamment. Je vais retourner le voir, je crois. Voilà, donc 17h45, un petit apéro à l'issue de tout ça, et un débat donc, proposé par les rencontres interreligions d'Aubenas. S'il me reste un petit peu de temps, un petit mot pour un film surprise, dont je ne dirai rien, mais c'est mardi 6, au regain. Dutheil, donc c'est un film en avant-première hein, proposé par l'Association française des cinémas d'art et essai. Donc pour se faire plaisir et ne rien savoir de ce qu'on va voir, ça se passe mardi 6. Et j'en termine mercredi 7 à 18h au navire avec Nos Frangins, film de Rachid Bouchareb sur la mort de Malik Oussekine et qui est présenté par la MRAP, donc avec un petit ciné-échange, ciné-débat à l'issue de la projection.
C'est quand ça? C'est mercredi.
Mercredi. D'accord. 7 à 18h. Voilà.
Semaine de cinéma. On se retrouve la semaine prochaine autour de ces micros, si vous le voulez bien, pour un nouveau Cinémascope, 12h10, 17h10, et en replay si vous avez pris du retard. Merci à tous les quatre, même si René nous a déjà quittés. On le remercie, et René, Sophie.
N'oubliez pas, premier Frima va au cinéma. Ou alors, tant oui, dégueulasse, allez, achète ta place, achète parce que là, c'est vraiment le week-end est propice.
Olivier, merci, Didier, Sophie et René, et Sylvain, la technique qui nous fait les gros yeux parce qu'on a dépassé de 5 minutes. Bon, allez, on se sauve, à la semaine prochaine. Voilà.